Tous les chefs allemands, tous les chefs SS avaient leur la schlag, le nerf de bœuf, quoi, voilà. Et quand ils étaient impatients, ils tapaient ça sur la botte, alors ça faisait. C'était lugru. Alors ça, c'était l'accueil. Alors au lieu de. On n'est pas descendu des wagons. On est tombé des wagons. On s'est tous trouvés en tas, une grappe humaine au pied de ce wagon. Qu'ils ont vite disloqué tout de suite, la grappe elle a été vite réduite. Rien qu'avec les coups qui pleuvaient et les chiens, les aboiements, c'était horrible. Horrible comme accueil. On nous a fait mettre là, on est arrivé sur cette voie et on a pris celle-là, nous. Sur le côté, là, vous voyez, ça, ils appellent ça des rampes. Alors, celle qui est toute droite, là, toute celle qui est toute droite, elle allait là. Elle allait ici. Et nous, on a pris la rampe de droite. On a eu beaucoup de chance. Et là, on est descendu sur cette plateforme qui est là. On nous a fait mettre, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, je ne sais pas si le train était là ou s'il était là. Et tout ça, on nous a fait mettre sur le côté pour assister au déchargement des cadavres. On a eu 250 cadavres dans notre convoi. Alors une fois ce travail effectué, cette chose effectuée, direction les camps de les baraques de quarantaine qui se trouvaient pas très loin de ce bâtiment là. Ça se trouvait par là, là, ici. Là. Ça, c'est des photos qu'on a prises lorsque. C'est des photos prises lorsque je suis allé à Auschwitz pour la première fois. Que je suis retourné à Auschwitz pour la première fois. On a fait ces photos-là. Moi, je connaissais le devant de la gare. Ça, c'est le devant de la gare. Ça, c'est le derrière de la gare. Ça se trouve là-devant. Ça, c'est le derrière. Vous voyez les trois voies, là? Ça, c'est les deux voies que je vous ai parlé, là où il y avait le triage, la sélection, et là, c'est la voie toute droite qui allait directement aux chambres à gaz. Tout à l'heure, si vous avez l'occasion, vous pourrez venir les regarder de près. Et on n'avait toujours pas bu. On n'avait pas mangé non plus. On nous a mis dans des grandes baraques, 600. 600 par baraque, c'est des baraques de 600. On nous a enfermés là-dedans. La nuit est arrivée. Toujours rien à boire. Et dans la nuit, il y a des portes du fond. C'était des anciennes écuries de chevaux. Les portes s'ouvrent au fond la nuit, et puis des Allemands se mettent à parler. Et parmi les 1500, on n'était plus 1500, puisqu'on en a laissé 250 là, sur le terre-plein des Lesbois. Il y en a qui savaient, qui parlaient français, qui disaient, il y a les soldats qui sont là et ils demandent si on veut boire, qu'ils peuvent nous donner de l'eau, moyennant en échange les montres, les stylos, des objets de valeur. Si vous avez des objets de valeur, ces messieurs peuvent vous les échanger contre de l'eau. Quelle aubaine, alors évidemment, les montres, tout ce qui avait quelque chose de valeur a été enlevé et porté à ces messieurs les nazis qui étaient là derrière et qui devaient faire ce trafic chaque fois qu'il y a un arrivage de déportés. On n'était pas encore déportés, là. On était des prisonniers, des gens déplacés, disons. Alors là, l'eau a circulé. Et les mettre dans quoi, l'eau? Mais il y avait à cette époque, l'homme portait beaucoup le chapeau. Comme maintenant, ça revient à la mode, il y a M. Labarrère, lui, il a de nouveau le chapeau. C'est le genre de chapeau qu'on a utilisé pour transporter l'eau de l'endroit où les Allemands prenaient de cette eau et nous la portaient. Moi, j'avais pas de monde, j'avais rien du tout. Et on a bu. Content. Moi, j'ai bien bu. J'ai rien donné, mais j'ai bien bu. Il y avait la méchanceté était partie, là. C'était fini. On était descendu du wagon, on était redevenu calme. On était de nouveau tous amis. Le lendemain matin, on nous fait sortir de ces deux baraques. On occupait deux baraques tout à fait là-bas au fond. On nous fait sortir de ces deux baraques. On nous fait aligner en bordure de la baraque. Et on nous a dit, si vous voulez faire, si quelqu'un a un interprète, si quelqu'un veut faire quelque chose de ses besoins, derrière, il y a des endroits pour ça, vous pourrez aller là-bas derrière. Tout ça sous la surveillance de soldats allemands, de nazis avec les fusils, et ainsi de suite, et les chiens. Et lorsqu'on a vu où l'eau avait été prise, alors tout de suite, les toubibs, on avait des toubibs parmi nous, tout de suite, ils ont dit, arrêtez de boire cette eau, ne buvez plus de cette eau, vous allez vous attraper toutes sortes de cochonneries, de maladies. C'était dans les fosses qui servaient de... On appelle ça dans l'armée des feuillets ou des fosses septiques, ou c'est des fosses, ou par-dessus ces fosses, il y avait des grands châssis en bois avec des planches intercalées, où on se mettait là-dessus, on faisait nos besoins dans ces fosses. Et c'était là-dedans que ces messieurs, les nazis, avaient pris l'eau et qu'ils nous avaient troqué contre des objets de valeur. On s'est arrêté de boire. Il y en a qui ont lâché le mot. Ben, vous n'en faites pas. À la douche, on pourra boire tout notre seau sans rien donner. Bon. Le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais pas quand, on nous a emmenés dans une baraque. Et dans cette baraque, on nous a marqués comme du bétail. À Auschwitz, on tatouait le numéro sur le bras. Dans les autres camps, c'était un bout de tissu comme ça, avec le triangle rouge et F. Mais à Auschwitz, c'est dans la chair qu'on nous a marqués. Du moment où j'ai eu ce numéro, l'identité humaine avait disparu. J'étais passé dans la catégorie bête. Bétail. Et pour apprendre ce numéro en allemand, parce qu'il fallait répondre à l'appel du numéro, comme j'étais pas doué pour les langues étrangères. Alors en allemand, c'est Arzen 6567. Et là, il fallait répondre hier. Autrement, il passait. Toujours avec sa petite badine, là. Il passait et on montrait le bras, et puis quand il arrivait au numéro, allez, des grands coups de badine en travers le torse, en travers la figure, en travers le buste. Voilà le 186567. Alors une fois tatoué, direction, toutes ces opérations-là se passaient vers le fond du camp, c'est-à-dire là-bas au fond. Ça se passait tout là-bas, tout au fond là-bas. C'était tout au fond les blocs de quarantaine, le Canada, je vous expliquerai ce que c'était le Canada. Ça se passait là-bas. Oui. Là-bas, ça se passait là-bas au fond. Parce que ça existait, ces chambres à gaz, il y en avait quatre comme ça, Auschwitz, de chambres à gaz. Ça existait depuis 42. Ça a été fait en 42. On pouvait gazer 1000 personnes à l'heure. En une heure de temps, il y a 1000 personnes qui rentraient vivantes d'ici et ressortaient par là, mortes. On passait de vie à trépas en une heure de temps, 1000 personnes. Ah, c'était du travail. Alors là, direction des bâtiments, blocs sanitaires, les douches. Là aussi, on est passé devant des tables qui étaient que... Toute l'administration à l'intérieur du camp se faisait par l'intermédiaire de déportés. C'était les déportés qui faisaient fonctionner tout le service administratif. Les chefs de bloc, les chefs de baraque, les chefs de discipline, c'était des droits communs allemands. Les Allemands avaient sorti les criminels de leur prison et ils les avaient mis dans les camps de concentration pour nous mener à la baguette. Ils avaient droit de vie et de mort sur nous. Un capot qui rentrait de fin de journée au camp et puis lui manquait un homme, il était félicité. On n'allait pas lui faire des remontrances ou lui dire quoi que ce soit. Ces gens-là avaient droit de vie et de mort sur nous. Et droit de beaucoup de choses. Vous allez le connaître tout à l'heure. Ces capots. Alors on a été dans cette pièce où il y avait des déportés habillés comme ça. Derrière ces tables, ils avaient des registres. La prochaine fois que je vais à Auschwitz, j'irai voir le registre des entrées. Je suis sûr que je vais y retrouver mon nom. J'ai jamais pensé d'aller voir mais on a tellement peu de temps quand on va à Auschwitz, il faut faire ça. Ou mettant à Auschwitz, on le visite en une matinée, on n'a pas le temps de tout voir. Mais on m'a promis que la prochaine fois que j'irai à Auschwitz, on y restera la journée. À une matinée, c'est pas possible de visiter Auschwitz parce qu'il y a un musée, il y a un musée qui est immense, qui est terrible. Eh bien, c'est ça. Là, ça fait partie du musée d'Auschwitz. Vous voyez, c'est 1, 2, 3 photos là. Ouais. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des petites bourses en papier, des petits sachets en papier, où il fallait mettre dedans les stylos, le peigne, la montre, la bague, dans ces petits sachets. J'en ris maintenant parce que les petites bourses en papier, elles sont restées vides. Il n'y a personne qui a mis quelque chose dedans. Évidemment, tout le monde avait donné ses objets de valeur pour avoir de l'eau croupie, de l'eau empoisonnée. Je ne sais pas s'il y en a qui sont tombés malades. De toute façon, en plus des 250 morts qu'on a eu dans le convoi, on en a laissé 250 de plus, parce que j'en suis sorti d'Auschwitz, j'en suis parti d'Auschwitz pour aller travailler dans d'autres camps. Ça fait qu'on est reparti à 1000 à Auschwitz, on en a laissé 500, on a laissé 500 camarades là-bas. Après, rasage, tonsure. Parce que les cheveux étaient récupérés comme si c'était des pépites d'or. Pourquoi on récupérait les cheveux dans les camps? Hein? Pourquoi on récupérait les cheveux? Qu'est-ce qu'on faisait avec les cheveux? Hein? Si tu le sais, tu peux le dire, hein? Hein? Voilà. Cette veste-là, c'est fait avec des cheveux. Des cheveux de morts et de vivants, hein, parce que les cheveux des morts étaient récupérés, les cheveux de vivants étaient coupés soigneusement. Alors la tenue, la coupe de cheveux, elle était comme ça, comme cette tête, je l'ai eue même comme ça. Mais enfin, alors, pendant une période de 6-7 mois, pendant une période de 2 mois, il y a un coup de tondeuse qui était donné. On appelait ça la strass. Ces cheveux-là, pendant 2 mois, poussaient. Et lorsque le poussé, il fallait que ça fasse 2 cm le cheveu pour être tissé. Et une fois que le cheveu avait poussé, il coupait les cheveux ici sur les côtés et il laissait l'ancienne trace de la trace, quoi. Et ça faisait une crinière. Alors pendant 2 mois, on avait la crinière au milieu de la tête, comme les derniers des Mohicans, là. Comme les punks. Une crinière au milieu de la tête. On disait ça, les derniers des Mohicans. Et puis pendant 2 autres mois, c'était une trace. La strass, la route. Ça permettait aux cheveux de pousser à gauche et à droite. J'ai une question. Oui. Quand vous êtes arrivé, vous savez ce qui vous attendait, vous Non, on ignorait. Après, oui, évidemment, donc on est arrivé à Auschwitz, qu'on est de la façon qu'on est descendu des wagons, et puis qu'on a vu tous ces bâtiments, qu'on a vu l'odeur, rien que l'odeur des fours crématoires, tout de suite, après, ça a parlé. Autrement, on ignorait où est-ce qu'on était tombé et où est-ce qu'on allait. Mais on n'était pas destiné pour aller à la chambre à gaz. Quand ils ont vu, parce qu'ils savaient reconnaître quelqu'un, ils savaient reconnaître quelqu'un, ils ont dû se dire, c'est dommage d'aller gazer ces gens-là, ils sont en pleine santé, ils sont costauds, ça va faire une main-d'œuvre formidable, de grande qualité. Autrement, j'en parlerai après, là. Les gens qui arrivaient à Auschwitz et puis qui n'avaient aucune utilité, qui n'étaient pas envoyés tout de suite si c'était bon ou mauvais. Tout le monde ignorait. Il y en a certains, oui, qui avaient des grandes connaissances, ils ont reconnu les Carpates. Parce que Auschwitz est au pied des Carpates. Il y en a qui ont su où est-ce qu'on était. Moi, ça ne me travaillait pas beaucoup, ça. La tonsure, c'était pas méchant. Il y avait des grands cercles accrochés au plafond ou accrochés sur ces cercles, suspendus à ces cercles. Il y avait une quinzaine de tondeuses électriques. Alors c'était des déportés habillés comme ça, qui étaient là et puis qui coupaient les cheveux. Le plus terrible, c'était le rasage. Moi, j'avais rien. Moi, c'était comme ça. Maintenant, si je devais passer à la séance de rasage, là, je ferais la grimace maintenant. Mais à cette époque, j'avais rien du tout. J'étais imberbe, j'avais pas de poils. Mais ceux qui étaient bien poilus dans le dos, sur les épaules, partout, sur la poitrine, aux cuisses, croyez-moi que ils ont souffert, hein, parce qu'on rasait, le rasage se faisait avec les gilettes, avec les gilettes qui avaient été pris dans les bagages. Alors, ceux qui avaient la chance de tomber sur un gilet où ils venaient de changer la lame, et puis ceux qui rasaient, ils s'en foutaient pas mal. Hein, que la lame, elle coupe ou pas, ils s'en foutaient pas mal. Ils prenaient tout son temps pour changer la lame. Oh, ça coupe encore. Et puis, il fallait voir un peu la boucherie qu'il y a eu avec ce rasage. Ça a rasé dans tous les coins. Il y en a qui sortaient de cette séance de rasage. Il y avait du sang partout. Direction une autre pièce, une fois que tout le monde a été tondu, rasé, une autre pièce où on passait dans un couloir. Et tout le monde rentrait dans une fosse. C'est une fosse de largeur d'une personne. On rentrait là-dedans jusqu'au cou. Et puis quand ça ressortait, il fallait voir la tête de ceux qui sortaient de cette fosse. Alors comme moi j'étais toujours le dernier, vu qu'on m'a tatoué avec la lettre Z. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a, cette eau, elle est froide, comment ça se fait qu'ils étaient tous? Alors, tout le monde était comme ça, là, c'est les jambes serrées, tout le monde tremblait, c'était le produit qu'ils avaient mis dans l'eau pour désinfecter. C'est ce produit qui était là-dedans. Alors, ceux qui avaient été taliadés par le rasoir et tout, croyez-moi qu'ils n'étaient pas à la fête, hein. Et quand je suis passé, évidemment, l'eau n'était pas trop froide, elle n'était pas propre. Et puis c'était ce piquant. Il fallait pas y mettre les yeux dedans, et puis il fallait descendre. Il fallait pas rester en bordure ou marcher sur la pointe des pieds, il fallait rentrer dans l'eau jusqu'à là. Après ça, la douche. Alors la douche, parlons-en de la douche. Et puis heureusement qu'on avait bu avant. C'était 4 lances à incendie dans chaque coin de la pièce, qui était aussi grande que ça. Là-bas, une lance à incendie, tenue par des déportés, qui étaient là pour ce travail. Et ils nous ont aspergé avec cette lance à incendie. Là, pas question d'ouvrir la bouche et puis d'essayer de boire. Hein. Direction dehors, à une plateforme. Sur cette plateforme, il y avait une montagne de vestes, une montagne de pantalons, une montagne de sabots. C'était des sabots, là. Le bon sabot en bois breton, là, vous voyez. Une veste, un pantalon, une paire de sabots qui étaient attachés par un lien. Et puis on s'est aperçu qu'il y en a qui avaient deux pieds droits. Un qui lui fallait une veste ou avec des longues manches, et il avait la manche. Enfin, tout ça, on s'en est aperçu lorsqu'on est arrivé à la baraque, parce qu'on est parti à poil de cet emplacement où il y avait les habits. On est parti à poil, la baraque n'était pas bien loin, hein, où on avait dormi la première nuit sur le sol battu. Hein. Et c'est là qu'on s'est aperçu que... Et là, des questions ont été posées. Et comment qu'on fait ? J'ai deux sabots droits, ou j'ai la veste qui est trop petite, ou le pantalon, parce qu'on n'est pas encore maigri, là. Hein. Et le pantalon qui ne va pas non plus. Un des portés qui était chargé de nous orienter, de nous faire rentrer dans la baraque, il dit, j'en faites pas, entre vous, vous allez vous trouver chaussures à votre pied, la veste qui va vous convenir, faites des échanges. Effectivement, on a fait des échanges, et puis tout le monde a eu... les sabots du bon côté, et les habits aussi, enfin, ça s'est bien passé, quoi. Voilà l'accueil qu'on a eu en arrivant à Auschwitz. Alors là, on nous a sorti de ces baraques de quarantaine, où c'était de la terre battue, hein, il n'y avait rien. C'est tout ce qu'il y avait dans cette baraque, c'était du sol battu. Hein. Pour rejoindre cette baraque-là. Voilà les baraques. Et ça, s'ils appellent ça des lits, je sais pas, on dirait que c'est des lits. Alors on appelait ça, nous, les cages. Ça, vous avez une cage vide, ça c'est une chambre avec les lits vide, et là vous avez Stabikenwald, là, l'autre. Là, voilà, les mêmes cages, ça c'est les mêmes cages là, mais elles sont occupées, elles sont remplies. Tabukenwald, ça, bloc 52. Là je suis avec des élèves, je suis allé avec des étudiants de Palois, j'ai retrouvé mon lit dans cette baraque. Je suis là à côté avec des étudiants, là je suis vraiment à côté de mon lit. Je suis en train de parler au groupe d'étudiants qui se trouve ici. Je parle avec beaucoup de difficultés. C'est des choses qui me coûtent énormément, mais je suis toujours volontaire. On m'appelle Zaza, on me surnomme Zaza. Et Zaza, t'es encore volontaire pour ce voyage ? Malgré que ça me coûte, ben oui, d'accord. Alors cette année, en principe, on devrait y retourner, mais on me fait venir en avion. Parce que je commence à vieillir, et puis il faut passer 10 jours avec des jeunes comme vous, là, plein d'ardeur. Il faut les suivre, hein. Surtout lorsqu'on va dans les tranchées à Verdun, là-bas. Chaque fois, on commence à Verdun. Alors, ils prennent de l'avance sur moi, et puis je me trouve tout seul comme un gland derrière, là. Alors ça fait que je me suis dit, la guide d'Auschwitz m'a dit, bon, l'année prochaine vous venez, non, je reviens plus, et puis effectivement maintenant, bon, j'y retournerai, je reviendrai. Mais on me fait venir à Cracovie en avion, et je rejoins tout le groupe des élèves là-bas, c'est pas encore fait, hein, parce que têtu comme je suis, je lui ai dit non, je viens avec vous à Auschwitz, mais je suis le même trajet. Parce qu'on passe 10 jours ensemble, 10 jours avec 70-80 élèves, croyez-moi que c'est dur, hein. C'est pas le club méditerranéen, hein. Parce qu'il faut le soir, il faut décharger le matin quand on arrive, ou le soir, il faut décharger le car. Alors c'est un car à Marquise, là. Alors il faut décharger le car, décharger les bagages, descendre, monter dans les dortoirs ou dans les chambres, remettre les bagages là, le matin, toujours, 5h du matin. On arrive le soir à 8h30, 9h, le matin, alors vite aller casser la croûte à la salle à manger. Le matin, il faut refaire les bagages, il faut se lever à 4h du matin, repartir à 5h, croyez-moi que... c'est pas des vacances, hein. On a toujours des volontaires, on a toujours du monde. Il y en a beaucoup, beaucoup qui rouspètent parce qu'ils sont pas du voyage, mais donc ça doit plaire. Et moi j'ai plus 20 ans, alors ça fait que je traîne. Je traîne. Alors Auschwitz a été construit sur un marécage. Et là on voit les fossés, ces fossés-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme kilomètre de fossés? J'en ai remué de la terre là-dedans. Et si quelqu'un, il y a un endroit où on le voit plus que ça, le fossé. Si personne vous donne un coup de main pour vous sortir de ce fossé, là, ce fossé-là, il s'est comblé. Hein. Eh bien, on ne sortait pas du fossé. Hein. Quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était faible, il était dans le fossé. Si personne ne lui passait le manche de la pelle ou la pioche ou un coup de main pour sortir de là, il restait dans le fossé. D'ailleurs, chaque fois qu'il manquait quelqu'un à la pelle, il y a une équipe de déportés avec la charrette, un peu ce genre-là, vous voyez. La charrette. Où est-ce qu'elle est, cette charrette? Voilà. Vous voyez, là. Après l'appel, il y a une équipe qui passait le long des fossés et ils récupéraient les cadavres des camarades qui étaient restés dans les fossés. Ça, c'est... Je vous en parlais tout à l'heure, là. Le bloc 10 à Auschwitz. J'espère qu'on aura le temps. Parce que... Ça passe vite, hein. À quelle heure on les libère? 5h moins quart, ça va, oui. 4h moins quart? Ah oui, oui. Alors, le casse-route. Vous avez la réalité, là vous avez la photo. La gamelle qui servait pour la soupe. Enfin, la soupe, c'est un grand mot. Le morceau de pain et le morceau de goumi. De bouche. En allemand, ça se dit bouche. Mais ça, à côté de ça, c'est du foie gras. Voilà le morceau de pain qu'on avait pour un jour. Le matin, on nous donnait ce morceau de pain, ce morceau de saucisson, et c'est pas tout à fait la gamelle, parce que la vraie gamelle qu'on avait un peu partout là-bas, la vraie gamelle, elle est là. Tout le monde avait un peu ce genre de gamelle. J'ai toujours dit, lorsque tu iras aux 8, tu essaieras de ramener une gamelle de ce modèle-là. Mais je n'ai pas trouvé. Mais dans le pays de l'Est, il y en a beaucoup, des gamelles comme ça. Voilà comment qu'on mangeait la soupe. Parce que, pas de cuillère, pas de fourchette, pas de couteau. Tout ça, c'était banni. On n'en avait pas de tout ça. Donc, il fallait... Je vais vous montrer. D'abord la soupe. Une distribution de soupe, là. Ça, c'est à Flossenbourg. C'est un camp qui m'a beaucoup marqué. Ça se trouve à côté de la Tchéquie. Là, c'est la distribution de la soupe. Ça, c'est des capots qui sont là, en train de distribuer la soupe, là. Capots. On appelle ça des capots, mais moi j'appelle ça des assassins. Des moins que rien. Ils sont là, au garde à vous, et nous on est là, on attend. Pour venir présenter notre gamelle à ces capots là. Dans tous les cas, c'était pareil. Hein. Ça, c'était pour être accroché dans le pantalon. On accrochait ça au pantalon. Et regarde là, comme ça, on avait cette gamelle accrochée là. Parce que si on avait malheur de laisser cette gamelle, même ça, si on avait malheur de laisser ça là, et puis d'aller vers le récipient où il y avait la soupe ou le déjeuner du matin, plus de pain, plus de saucisson. Il fallait surveiller ça, et pas question de mettre dans la poche, parce que dans ces habits-là, il n'y avait pas de poche. Pas de poche là, il n'y avait pas de machin, parce que là, il n'y avait pas de slip, pas de chaussettes, pas de mouchoir, tout ça, c'était banni. On avait la veste, le pantalon et les sabots, ou les plaquettes, ça dépendait. Alors il y en a certains avaient trouvé l'astuce, ceux qui voulaient garder. Moi je gardais rien. Moi ce qui était là, c'était garder. Je mangeais mon pain, je mangeais mon rondelle de saucisson en partant à la pelle le matin pour partir au travail. Donc ça fait qu'on pouvait plus me voler, je l'avais là. Après tant pis quoi. Je regardais les autres avec envie, quelqu'un qui avait gardé son pain et qui le mangeait. De toute façon, pendant le travail, on n'avait pas le temps de grignoter, on n'avait pas le temps de manger. C'était interdit. Dans la soupe, on arrivait là, le capot était là, avec sa louche, c'était des louches d'un lit. Et ça ne plaisait pas. Parfois, ça ne plaisait pas du tout, au capot. On ne passait jamais avec le même capot. Hein. Ça changeait.